L'Union européenne de nouveau dans la tourmente après une série d'arrestations d'espions en Allemagne. On a même interpellé un collaborateur de la tête de liste de l'extrême droite pour les élections européennes. Après le Qatargate il y a un an et demi, on mesure maintenant la volonté de la Chine d'exercer une influence en Europe. Notre invité pour en parler est Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut s'attendre à voir ce type de révélations, d'arrestations se multiplier à l'approche des élections européennes du mois de juin ?
Oui, alors pas seulement à l'approche des élections du mois de juin. L'activité des services de renseignement chinois est continue en période électorale comme hors des périodes électorales. Donc on va surtout voir des affaires de ce type émerger de plus en plus dans les mois et les années à venir.
Ces opérations d'influence chinoise, elles sont régulièrement dénoncées par les Européens. Mais de quels moyens disposent-ils pour se prémunir de l'espionnage de Pékin ?
Alors, depuis quelques années, les services de renseignement, les gouvernements européens ont pris conscience de la montée en puissance des services chinois, l'augmentation à la fois quantitative et qualitative, hein, puisque les opérations menées par la Chine sont de plus en plus sophistiquées, donc de ce nouveau problème, et ont mis en place un certain nombre de dispositifs. Il y a d'abord des moyens accrus qui ont été consacrés aux services de renseignement, et notamment à la branche du contre-espionnage au sein de ces services de renseignement. Il y a eu aussi une réallocation très claire des moyens de la lutte contre le terrorisme vers le contre-espionnage, puisque pendant plusieurs décennies, c'est vrai que les services de renseignement avaient beaucoup plus investi dans la lutte contre le renseignement, en laissant un petit peu de côté la lutte contre l'espionnage. Ça, c'était à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, où la menace de contre-espionnage apparaissait moins importante. Bon, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un retour de cette menace et donc une adaptation des services de renseignement européens pour prendre en compte cette nouvelle menace, ce retour d'une menace ancienne. Les services de renseignement doivent investir plus, réapprendre à lutter contre ce type de menace, combler leurs lacunes, puisque finalement les services de renseignement chinois sont des services peu connus, ou en tout cas insuffisamment connus, donc il faut apprendre à mieux comprendre leur organisation.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on entend beaucoup parler en Europe, surtout même de l'influence russe, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que les Européens surveillent et connaissent aussi bien les réseaux chinois ?
Alors, ils sont surveillés, bien évidemment. Ils sont moins bien connus. On les connaît aujourd'hui mieux qu'il y a quelques années. Il y a eu beaucoup de travaux menés aussi, non pas seulement par les services de renseignement, mais par la société civile. Il y a des chercheurs, il y a des journalistes qui travaillent de plus en plus sur l'influence et l'espionnage chinois en Europe. Donc, on commence à mieux les connaître. Mais il y a sans doute un déficit de connaissances encore important qu'il faut combler par plus de travaux. Il faut recruter plus de chercheurs, il faut que plus de journalistes travaillent sur ces questions et il faut que les services de renseignement s'adaptent en rehaussant leur dispositif.
Comment est-ce qu'il faut interpréter ces arrestations récentes ? Est-ce que les espions chinois se font davantage repérer ou est-ce qu'il s'agit en fait de la pointe de l'iceberg qui témoignerait d'un réseau considérable de Pékin ?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, si on interpelle ou si on entend parler de plus d'affaires, c'est aussi parce que les services chinois sont plus actifs. Donc, comme il y a plus d'activités, il y a plus de chances qu'on repère une partie de ces activités. Si on repère plus d'activités, c'est aussi parce qu'on s'intéresse plus à ce que font les Chinois. Vous savez, c'est comme la criminalité. Plus on en cherche, plus on en trouve. Donc, on peut faire gonfler un petit peu de manière artificielle les statistiques. Et la vraie question, vous l'avez dit, c'est quelle part de l'ensemble des activités menées par les services chinois représente les affaires dont on entend parler ? Est-ce que finalement on a connaissance de 10% des opérations d'espionnage et d'influence de la Chine ou plutôt de 60% ? Ça, c'est une vraie question à laquelle on ne peut pas véritablement répondre parce qu'on ne connaît pas assez justement ces activités.
Alors j'avais une dernière question. Qu'est-ce que représente aujourd'hui pour la Chine, ces opérations de renseignement, si on compare à d'autres pays, à d'autres grandes puissances?
Vous voulez dire quels sont leurs objectifs?
Oui, leurs objectifs et les moyens déployés?
Alors, les objectifs,
si on le sait.
Il y a trois types d'objectifs poursuivis par la Chine à travers ces opérations. Le premier, il concerne la survie du régime. Donc, il s'agit de lutter contre ce que les services chinois et le régime appellent les cinq poisons. Donc, les Tibétains, les Ouïghours, la secte Falun Gong, spirituelle, religieuse, les démocrates et les Taïwanais. Ça, c'est les menaces qui pèsent sur l'hégémonie du parti sur le système politique chinois. Ensuite, il y a une deuxième branche d'activité qui concerne plutôt le recueil de renseignements. Donc là, c'est l'idée, c'est de recueillir des informations d'ordre économique, technique, scientifique, politique, militaire, sur les États européens pour renforcer la position de la Chine dans les négociations avec l'Europe, mais aussi pour éventuellement anticiper certaines activités, mieux connaître la position de la France, par exemple, sur la question de la guerre en Ukraine, etc.
Merci beaucoup, Paul Charron, d'avoir été en ligne avec nous, directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Vous avez aussi écrit, co-écrit « Les mondes du renseignement » au PUF.